France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet Campagne, bonjour. Pour poursuivre notre traversée des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc étape dans la Drôme, auprès d'une entreprise artisanale créée par deux adeptes du cyclotourisme que vous allez découvrir dans un court instant avec Laure qui va répondre à nos questions. Nous frapperons ensuite à la porte de Monsieur et de Madame Recyclage, qui est à la fois un bureau d'études et un média visant à vulgariser toutes les solutions liées au recyclage.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Laure Besson, bonjour.
Oui, bonjour.
Laure, votre premier voyage à vélo, vous vous souvenez, vous n'aviez que 13 ans.
Oui, ah oui, ça commence à faire un petit moment.
Vous êtes accro du vélo.
Et oui, et pour l'anecdote, à 14 ans, j'avais juré que j'en ferais plus jamais. Parce que j'étais adolescente et que forcément, je refusais tout ce que je faisais avec mes parents. Et puis finalement, c'est revenu parce que c'est tellement agréable.
Alors, je continue à lire le passé, un bac plus 5 en management. Vous allez créer votre entreprise, mais en attendant sur votre route, vous croisez celle de Jonathan, qui est couturier, mais qui a accro du vélo aussi. Et vous traversez les régions de France et les pays européens tous les deux.
Exactement, et même les États-Unis.
Et alors vous avez une belle idée, vous êtes installé à Oust-sur-Scie et vous avez décidé de réaliser vos premières sacoches de vélo.
Nos premières sacoches, on les a réalisées il y a à peu près 2 ans. Quand on est arrivé, on connaissait pas la région. Il a fallu qu'on fasse un petit réseau dans le coin. On a participé à la création d'un tiers-lieu local qui s'appelle l'Usine Vivante. Et c'est dans ce tiers-lieu que Jonathan il a rencontré quelqu'un qui l'a formé à la couture. Donc il a intégré l'entreprise L'Étoile du Berger,
oui.
Qui l'a formé au métier de couturier. Et c'est à ce moment-là qu'on a développé l'idée des sacoches.
Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces sacoches, en dehors du fait qu'elles soient made in France?
C'est déjà quelque chose d'important pour nous, mais disons qu'on a 3 arguments. On est vraiment usagé du vélo depuis très longtemps. Et donc, en fait, on a plein de petites astuces qui sont nécessaires. Donc, nos sacoches sont vraiment dessinées pour être pratiques. Je vais vous donner un exemple. Quand nous, on voyage à vélo, c'est arrivé plein de fois que notre flacon de savon ou que notre flacon d'huile se renverse dans notre sacoche, ce qui est vraiment pénible. Du coup, on a décidé de faire une sacoche en mettant une poche extérieure dans laquelle on peut glisser les flacons pour éviter qu'ils se renversent à l'intérieur. Et le deuxième argument important pour nous, c'est qu'on a vraiment travaillé l'aspect esthétique. Parce qu'on avait envie qu'elle soit jolie et qu'on soit content de faire du vélo avec notre beau vélo et notre belle sacoche.
Oui, je confirme, vous allez, chers amis, sur sacochevélo.fr et vous allez voir. Alors, les premières sacoches, il y a la sacoche Annie, il y a la sacoche Lisette, il y a la sacoche Suzanne. Et je me posais la question, et puis Paulette?
Et puis Paulette. Mais écoutez, on prévoit d'en faire une nouvelle très bientôt, alors on ne sait pas encore comment on va l'appeler.
Et ben,
si vous avez des suggestions.
Et ben, et on va reprendre la chanson, et puis Paulette.
Ben oui, alors après je ne sais pas si vous avez vu pourquoi on a donné ces noms à ces sacoches.
Non.
Et donc Annie, en fait c'est la première voyageuse qui a voyagé à vélo en 1894. Elle s'appelait Annie Londonderry. Et donc j'avais envie de lui rendre hommage en faisant une sacoche de voyage à son nom. Lisette, c'est une championne française, pareil, à la fin du 19e, qui a fait plein de courses vélo et qu'on a oublié. Et Suzanne, c'est une militante des droits des femmes américaines qui se rendait tous les jours à son travail à vélo. Donc la sacoche de travail qu'on peut utiliser tous les jours, nous, aujourd'hui, pour aller au vélo, rend hommage à Suzanne qui, déjà, il y a un siècle, allait à son travail à vélo.
Oui. Le textile est tissé dans le Nord, à Wascal. La menuiserie provient de Romans-sur-Isère. La visserie est commandée dans le Morbihan. J'oublie de dire que vous utilisez aussi des matériaux de récupération.
Tout à fait. On n'est pas à 100% en récupération parce que c'est difficile de trouver des filières qui sont stables et nous, on commence. Donc on aimerait développer, mais pour l'instant, on utilise des chutes de kayak. Donc il y a une petite entreprise qui s'est montée à 3 km qui s'appelle Mekong, qui fait des packrafts. Et du coup, ils utilisent des grands tissus et toutes leurs chutes, on les récupère pour faire une partie des sacoches.
Joli. Et vous en êtes à quel stade de production aujourd'hui?
Disons qu'en ce moment, on est en hiver, donc c'est pas la grosse saison, mais notre entreprise, on commercialise depuis octobre. Et donc on a fait des belles ventes pour Noël. C'était un beau cadeau à offrir, des sacoches. Et là, on prépare le printemps qui arrive et les premiers week-ends à vélo qui vont commencer à Pâques.
Ouais, non, mais là, c'est quasiment du sur-mesure. Comment vous allez gérer, si vous avez plus de commandes, cette qualité de façonnage?
Et ben, c'est une bonne question, puisque c'est la première année. mais on n'est pas inquiet, en fait. Ce qu'on fait, c'est que, effectivement, c'est quasiment du sur-mesure. Mais en fait, on fait quand même un petit peu des stocks d'avance, parce que on a des modèles, disons, nous on a créé une gamme, ensuite les personnes peuvent choisir des options, mais la gamme elle est standard, donc on fait un peu de stock, et puis après on répondra à la demande et on produira les sacoches en fonction de ce que chacun nous demande. En tout cas, nous on fait vraiment tout à la main dans notre atelier à Oust.
Super, bienvenue au club des jeunes entrepreneurs. La sacoche, c'est la gamme Hirondelle, avec
oui,
ses trois premières. Ces trois premières sacoches. Donc le site, je rappelle, c'est sacochevélo.fr. Merci Laure.
Eh bien, grand merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Je vais prendre 2 minutes, si vous me l'accordez, pour vous présenter le projet fomenté par Fabien. Avant d'habiter à Pau, Fabien a été conseiller municipal dans une commune de Corrèze et bénévole à la délégation locale de l'UNICEF. Un jour, il était pris d'un doute sur sa légitimité à participer à des commémorations républicaines, lui qui n'avait pas connu la guerre. Donc comment comprendre, mieux transmettre les valeurs qui ressortent d'une période noire de notre histoire, en l'occurrence celle de la Deuxième Guerre mondiale. Fabien a décidé d'agir à sa manière en dessinant un parcours de Pau à Auschwitz, soit 3000 km à vélo à travers l'Europe. Ce parcours sera ponctué de rencontres avec les jeunes dans des établissements scolaires. Évidemment, dans le contexte que nous connaissons, le programme de cette aventure mémorielle prend un sens supplémentaire. Alors, je suis allé voir quand même si Fabien prévoyait toujours de partir malgré la guerre actuelle sur le territoire européen. Cette aventure, je cite, sera l'occasion d'affronter un certain nombre de mes peurs et de me dépasser, écrit-il. Avec l'UNICEF, Fabien entend collecter un maximum d'argent pour soutenir le droit des enfants et particulièrement le droit à l'éducation. Et à cet effet, il ouvrira prochainement une cagnotte, c'est prévu le 24 mars. Ensuite, ce sera le départ depuis le camp de Gurs, camp d'internement français proche de Pau, qui enferma 60 000 personnes. Et entre le 6 août 42 et le 3 mars 43, des convois ont expédié de ce camp 4 000 juifs vers Drancy avant d'achever leur martyr à Auschwitz. C'était sous Vichy et sous Pétain, c'est bien de le rappeler. Fabien compte arriver à Auschwitz en Pologne le 14 juillet prochain. Si tout va bien, il y a une page Facebook qui est dédiée. Je vous conseille de la consulter. Enzo Mutini, bonjour.
Bonjour.
Enzo, vous êtes monsieur recyclage. Lise et Madame Recyclage, tous les deux, vous avez créé en 2019 un bureau d'études, un média, je cite, visant à vulgariser les problématiques liées au recyclage, et en particulier à vous attaquer à cette injure pour notre environnement qu'est le plastique. Comment vous procédez ?
Eh bien, c'est exactement ça. L'idée, c'est de dire qu'il y a des enjeux qui sont assez importants sur la manière dont on produit et on gère le déchet et l'impact que ça a sur l'environnement. Et pour pouvoir trouver des solutions, il faut qu'on y réfléchisse tous ensemble. Et donc, il faut qu'on puisse s'éduquer tous ensemble pour monter un peu en compétences. Et donc, il faut pour ça déjà commencer par bien expliquer, par exemple, comment on fait du plastique, comment on recycle du plastique, pourquoi est-ce que ça peut être toxique ou pas pour l'environnement.
Vous êtes en train de nous dire, Enzo, qu'il y a beaucoup aujourd'hui de bonne volonté, ou en tout cas un affichage d'une meilleure qualité des produits, d'un recyclage, d'une économie circulaire, mais il y a encore un peu, pas mal, voire beaucoup de greenwashing.
Eh bien, il y en a beaucoup. Alors, il y en a une partie qui n'est pas forcément volontaire, qui vient justement de ce manque d'éducation, c'est-à-dire des personnes, tout domaine confondu, tout milieu, secteur confondu, en fait, qui pensent bien faire et qui se trompent parce qu'elles n'ont pas l'éducation nécessaire à ça. Puis il y a toujours une petite partie un peu plus cynique où les gens font exprès de tromper le consommateur, par exemple.
Quels sont les exemples de tromperie ? Vous pouvez nous donner une illustration ?
Alors, un exemple qui est vraiment très très simple, c'est qu'on a voulu faire en sorte d'interdire le gobelet en polystyrène dans les machines à café.
Ouais.
En disant, c'est un objet jetable, il faut l'interdire, ça n'a pas de sens. Mais plutôt que de réfléchir à l'usage même de la matière, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on consomme en fait quelque chose de jetable, on l'a remplacé par un gobelet en carton. Et ce gobelet en carton, le carton, ça résiste pas à l'eau, et donc encore moins au café chaud. Et donc ce gobelet carton, ben, en fait, il y a ce qu'on appelle un liner, une fine couche plastique à l'intérieur. Et donc on croit qu'on se débarrasse du plastique. On l'a juste remplacé par quelque chose qui ressemble à du carton, mais qui contient toujours du plastique.
Mais il y a quand même une législation aujourd'hui. On ne peut pas tricher, on ne peut pas outrepasser et faire mention de quelque chose qui n'existe pas.
Eh bien, c'est un peu plus subtil que ça. C'est-à-dire que, par exemple, le meilleur exemple, c'est vraiment la notion de recyclable et de recyclé. On va vous vendre un objet qui est recyclable. Il a de grandes chances de ne pas du tout être recyclé. Parce que la différence, c'est est-ce que j'ai conçu un objet qui peut être recyclé et est-ce que en fait derrière il y a vraiment toute une chaîne opérationnelle industrielle pour le faire recycler? C'est vraiment la question de la théorie et de la pratique. Et donc au niveau de la législation européenne par exemple, il est évident que si on n'est pas en mesure de faire recycler un produit de manière industrielle, on n'a pas le droit d'écrire recyclable. Oui. Mais dans la législation française, attention, si on est en train de mettre en place des filières de tests pour recycler des produits, alors c'est autorisé. Et donc après, le petit jeu, c'est est-ce que la filière de test, c'est quelque chose de pertinent avec de réelles intentions derrière pour en faire quelque chose de à plus grande échelle et économiquement viable, ou est-ce que c'est juste une manière de détourner l'attention pour pouvoir apposer un logo recyclable sur des produits comme des emballages ménagers? Et puis, en fin de compte, si c'est pas rentable ou si on arrête, c'est pas grave, on a écoulé des produits.
Et ces constatations que vous réalisez, ces avertissements que vous nous donnez, Enzo, font partie aussi du contenu des conseils et des accompagnements que vous proposez aux associations, aux communes ou aux entreprises?
Et oui, bah voilà, bah en gros, tous ces sujets autour de est-ce que c'est vraiment recyclé, par exemple, est-ce que un produit va bien aller dans un centre de tri, du centre de tri va bien aller vers un recycleur, le recycleur qu'est-ce qu'il en fait, etc. Tout ça, c'est évidemment après de la prestation de services, que ce soit pour des collectivités, des associations, des syndicats de gestion des déchets, des entreprises qui veulent mettre de nouveaux emballages sur le marché. Ça, c'est sûr, oui. Mmh. Donc, on fait les deux. L'idée, c'est de pouvoir être critique, mais en même temps d'être force de proposition. Pour dire, on peut pas juste être critique, il faut proposer quelque
Absolument.
Chose.
Absolument. Et les solutions ne manquent pas.
Et ce qui est très intéressant, c'est que souvent, le réflexe, c'est de vouloir changer à tout prix de matériaux, essayer de trouver un peu une solution miracle, alors que le vrai questionnement, il doit vraiment être fait sur l'usage et l'emploi.
Le site, c'est monsieurmadamerecyclage.com. Monsieur Recyclage, c'est Enzo. Et madame, donc ouais. Je rappelle, c'est Lise.
Ouais.
Et vous avez des enfants?
Notre enfant, c'est cette entreprise-là.
Bon, alors, prenez soin de cette entreprise. Merci, Enzo.
Merci beaucoup.